J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole dans cet échange citoyen. Le 1er mai de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale du travail. C'est l'occasion pour les États et les gouvernements de réfléchir sur la problématique de l'emploi et du taux de chômage dans les États. À ce jour, la RDC est face à un dilemme tel que le manque de moyens induit par ailleurs le manque du travail et par conséquent l'avancée de la corruption. Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité d'interagir avec nous et avec l'ensemble d'internautes sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à avoir été touchés par ces sujets. Une fois encore, merci de votre confiance. Polydor Basunga assure la mise en onde de cette émission réalisée par Jocelyne Mukendi et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, d'accueillir dans ce studio Monsieur Guilin Kikangala, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Kikangala.
Bonjour JR.
Vous êtes coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption et en même temps conseiller spécial du chef de l'État.
C'est exact.
Vous préférez...
Monsieur le coordinateur, c'est bon.
Le coordinateur, c'est bon. Voilà, d'entrée de jeu, y a-t-il un lien entre le travail et l'avancée de la corruption en RDC?
La corruption est un phénomène qui est assez, qui a plusieurs, je dirais plusieurs origines. Alors, à l'occasion du 1er mai, la question sociale, c'est-à-dire la question notamment de l'emploi et du non-emploi, est une question qu'on ne peut pas minimiser. C'est vrai que si les gens n'ont pas d'emploi, ils ont tendance, surtout dans nos pays africains, à se retourner vers l'économie informelle. Cette économie informelle peut être d'une certaine façon licite, c'est-à-dire qu'elle porterait sur des activités qui n'ont rien de répréhensible, si ce n'est le fait qu'elles ne sont pas déclarées. Elles peuvent aussi porter sur des activités qui sont, elles, par contre, illicites. Et donc là, il y a déjà un lien. Et parmi les actes illicites, il y a toute la problématique de la... C'est vrai qu'on appelle ça la... On peut parler de corruption, mais moi, je suis en charge, quand je dis moi, je dis l'agence, la PLC, de la corruption, des détournements, et de manière générale, tout ce qui est les délits de type économique. Hein? Puisqu'on parle dans l'ordonnance des délits assimilés. Mais il est clair que il y a un lien, intellectuellement parlant, il y a un lien entre la situation sociale et les déviances que certains peuvent avoir dans leur comportement.
Alors, pensez-vous, comme le disent certaines personnes, que le taux de chômage en RDC étant très élevé, c'est difficile aujourd'hui d'éradiquer la corruption?
Vous savez, nous avons un plan d'ailleurs que j'ai amené ici, de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, qui elle va cette stratégie s'étend sur 10 ans, 2020-2030. Une des raisons pour lesquelles elle s'étend sur 10 ans, c'est parce que nous sommes conscients de l'énormité de la tâche. Donc ce que vous venez de citer est peut-être une des raisons, mais de manière générale, la corruption est un phénomène qui est prégnant dans nos institutions et dans nos pratiques quotidiennes. Que ce soit pour aller retirer des documents administratifs dans des ministères ou dans je ne sais quelle administration, que ce soit pour passer un carrefour et avoir, je dirais, la bienveillance du policier de la circulation routière, ce sont des actes qui normalement tombent sous le coup de la loi, et notamment en matière de corruption. Donc voilà, je ne dis pas que c'est la cause unique, je dis qu'il y a tout un contexte socio-économique parmi lequel celui que vous citez, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 1er mai.
La corruption, la fraude, de la corruption à la fraude, il n'y a qu'un pas.
Tout à fait.
Et on sait aujourd'hui que le taux de la corruption est très élevé, parce que beaucoup d'institutions du pays ont fait état de cette situation. D'aucuns parlent même de la disparition chaque année de 15 milliards de dollars. Est-ce que vous avez fait également ces constats?
J'ai vu ce chiffre. Je dois vous avouer que je n'ai pas été documenté sur la façon dont ce chiffre a été fait. Je sais qu'il y a beaucoup de secteurs de la vie économique qui échappent, par exemple, à l'impôt, qui échappent au respect de certaines règles, notamment en matière de passation des marchés. Après, tout ce qu'on peut faire par rapport au chiffrage, d'après moi, modestement, au bout de 9 mois de fonction, c'est de l'estimation. Mais c'est de l'estimation sur base de critères que soi-même on applique. Je crois que la question du chiffrage et des 15 milliards, pour moi, n'est pas une question qui est bien posée. La question, c'est comment fait-on pour fermer les robinets, par où s'échappent les moyens de l'État. Parce que plus l'État a les moyens d'assurer sa politique en matière de gratuité de l'enseignement, en matière de politique de santé, couverture universelle, mieux c'est. Mais la corruption, comme je vous l'ai dit, ou la fraude, c'est un domaine qui va au-delà de ce que les gens pensent toujours, les régies financières ou les sociétés minières. C'est aussi, par exemple, dans l'enseignement. Il y a des gens qui ont tout un parcours, tout un cursus scolaire et académique qui est basé sur l'achat des résultats.
Alors, parce que nous parlons de la journée du travail, mettons un accent sur ceux qui ont de l'emploi, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Alors, quels sont les mécanismes que vous, dans votre plan de stratégie, vous avez pu peaufiner dans les volets prévention pour soit décourager ceux qui dilapident notamment les trésors publics ou encore ceux qui sont facilement tombés dans la concussion?
Ben, vous verrez que dans le domaine prévention, il y a une mesure qui peut-être passe un peu inaperçue et qui fait partie des recommandations que nous faisons dans le plan stratégique, qui est qu'il y ait une institution que nous appelons dans notre plan le représentant de la prévention de la corruption. Ce serait parmi les fonctionnaires, par exemple, puisque nous parlons de l'emploi, moi je parle par exemple de nos amis fonctionnaires de l'État, qui sont quasiment dans le pool de l'emploi. L'État est le plus gros employeur de la République. Alors cette institution, ce serait quoi? Ce serait quelqu'un qui agirait un peu comme un lanceur d'alerte. Puisque un lanceur d'alerte, techniquement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, dans le cadre de sa relation professionnelle, est mis au courant de faits qu'il estime de bonne foi, j'insiste sur l'expression de bonne foi, de faits contraires à la loi ou à l'éthique. Et c'est très important. Et régulièrement, moi je reçois notamment des fonctionnaires qui viennent nous soumettre des situations qu'ils estiment contraires à la loi, et notamment bon, tout ce qui est la question des salaires, tout ce qui est la question des primes, tout ce qui est la question de la gestion de certains départements. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a des difficultés à payer les gens. Or, d'un autre côté, il y a certains responsables qui, par leur gestion, ou ce qu'on appelle ici la mégestion, font en sorte que les moyens de l'État se rétrécissent. Si nous arrivons à mieux lutter contre cela, et c'est pas toujours dans des grands ministères, hein, c'est à tous les niveaux, nous estimons que nous allons dans un bon pas. Donc ça, c'est une mesure qui est radicale et qui consiste à permettre à ce représentant de prévention de la corruption, dès lors qu'il est au courant d'une situation, de le dénoncer, mais d'être protégé. Donc il aura un statut. Nous n'avons pas le pouvoir de créer cette fonction. Nous avons le pouvoir de la recommander. Et dans le rapport que nous ferons bientôt, ou dans le rapport qui, comme nous sommes le 1er mai, qui est sorti, vous verrez qu'il y a un passage là-dessus.
Je serais tenté de vous poser la question, est-ce que il vous a été demandé de lutter réellement contre la corruption à court délai, à court terme?
Oui, mais que les gens n'oublient pas une chose. Nous sommes entrés en fonction début août. Je comprends. Le problème, il est grave.
Parce que la corruption gangrène la RDC, en tout cas dans tous les secteurs de la vie.
Mais je crois que vous comprendrez qu'en 8 mois, je ne peux pas régler un problème que je propose de régler en 10 ans.
Et vous pensez vous les régler à quelle durée ? Sur une durée de combien à peu près ? La mission qui vous est assignée.
La mission, c'est une mission à durée indéterminante ce qui me concerne. Donc aujourd'hui, je suis le coordonnateur. Peut-être que demain, ce sera quelqu'un d'autre. Mais l'agence, elle doit continuer. Nous avons une vision qui est à la fois humble, mais réaliste et déterminée. Humble, nous savons que le phénomène est très important. On l'ignore pas. Et donc, nous n'avons pas la prétention de l'éradiquer en 6 mois ou en 8 mois. C'est impossible. Que quelqu'un qui vous dit le contraire ment ou rêve. De déterminer, c'est-à-dire déterminer en toute indépendance, à chaque fois que nous avons connaissance d'un fait de ce type-là, nous investiguons.
Alors, si ce n'est pas un secret, quelle est l'approche que vous utilisez pour lutter contre la corruption ?
Prévention.
Avant qu'on ouvre le standard pour accueillir les auditeurs.
Oui, bien sûr. Au niveau de la prévention, nous avons un plan ici qui fait 30 pages, je ne vais pas vous le lire en entièreté. Il y a plusieurs actions qui sont faites, parce que si on prend que le volet répressif, ce n'est pas intéressant. Il faut aussi que la population adhère à la démarche. Alors au niveau de la prévention, il y a plusieurs actions qui ont été faites, ou qui sont en cours des lettres. Il y a ce que je viens de vous dire par rapport avec la recommandation du représentant de prévention de la corruption dans toutes les entités administratives. Il y a un projet qui nous tient fort à cœur, que nous allons mener et que nous faisons déjà, qui est déjà bien avancé avec l'UNESCO, qui est notre partenaire, pour qu'il y ait des formations, des initiations dans le cursus scolaire à la prévention de la corruption et à la compréhension de ce phénomène. Au niveau répressif, vous savez que nous travaillons avec les parquets, donc nous leur amenons des dossiers, nous faisons des enquêtes. Nous avons des relations aussi avec les agences correspondantes dans le monde, puisque...
Bien entendu avec la société civile qui lutte dans les secteurs.
Je crois que les premiers que j'ai reçus, ce sont les gens de la société civile. Mais soyez conscients du fait que la société civile est multifacette. Mais je crois que tous les gens de la société civile qui ont souhaité rencontrer le coordonnateur ou rencontrer l'agence ont été reçus.
Alors, si vous le permettez, monsieur le coordonnateur, on va, nous a donné à cet exercice avec les auditeurs pour voir un peu comment la population a accueilli d'ailleurs la création de l'agence. Mm-hmm. Et en même temps, cette question du travail, du lien entre les travail et la corruption, on verra ensemble avec les auditeurs. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Allô ? Allô ? Allô ?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience
qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui reçoit pour vous, Monsieur Guilain Kikangala, qui est le coordonnateur de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. Vous nous avez demandé de le recevoir parce que vous aviez beaucoup, beaucoup de préoccupations par rapport à la création de cette institution et également le lien qui existe entre l'emploi et la corruption. Voilà. Vous êtes en ligne, Franck, depuis Vienne, en Autriche. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, votre ami Gér. Bonjour à tous les amis au studio. Bonjour aussi à votre invité, monsieur Guinet, qui candidat. J'espère que je prononce correctement son nom.
Vous l'avez pas massacré, non plus. Voilà. Vous avez la parole. Quelle est votre réaction après avoir écouté notre invité? Et que dites-vous?
Oui, je vais emboîter ces pas en commençant par confirmer qu'il y a effectivement un lien entre la corruption et le chômage, parce que nous devons commencer aussi par rappeler que le travail, pour chaque personne, le travail assure l'indépendance. Mmh. Et c'est même le titre d'un texte que nous avons analysé aux humanités. Le travail anoblit,
l'homme.
Le travail mmh. valorise et le mmh. révalorise chaque personne. Et c'est en travaillant durement que les hommes arrivent à découvrir la vraie valeur de la vie, car l'homme arrive aussi à se prendre en charge en se réalisant soi-même par sa capacité de se subvenir à ses besoins les plus élémentaires.
Mmh.
Et je crois aussi, même déjà au niveau de la spiritualité médiévale, ils revenaient souvent sur leur phrase paradigmatique « ora et labora
mmh. ».
Déjà, en partant de cet aspect, nous allons comprendre pourquoi des penseurs comme Karl Marx et les autres politologues du genre John Rawls ont essayé un peu de placer des bases solides sur la nécessité du travail, la répartition du travail et aussi la répartition des revenus au sujet des salaires et ainsi de suite. Et si nous devons repartir de cet aspect, on doit comprendre que un pays qui veut se développer,
mmh.
un pays qui aspire au progrès, ne peut jamais atteindre cet état sans travail. Donc, le pays doit avoir des citoyens qui travaillent, et quand les citoyens travaillent, l'État doit les rémunérer.
Mmh.
Mais je crois que par rapport à notre pays, nous avons des notions, on a des conceptions vraiment classiques, standards, mais on a de la peine à les appliquer chez nous.
Mmh.
Dans notre pays, votre invité sait bien que la proportion du chômage est au-delà des 80%.
Mmh.
Au-delà des 80%, plus de 80% des Congolais ne travaillent pas. Ils sont
et ils sont dans l'informel. Ils sont dans l'informel.
Et même le 20% qui travaille, je ne dirais pas que même ces 20%-là se retrouvent convenablement, parce que même dans le 20% qui travaille, il y a même des chômeurs déguisés.
Mmh.
Parce qu'il y en a qui travaillent.
Donc si je comprends bien, Franck, s'il vous plaît, Franck, si je comprends bien pour vous, ça sera pratiquement difficile d'éradiquer la corruption, parce que même ceux qui travaillent, ils se retrouvent dans une situation de chômage déguisé.
Non, je ne trouve pas que c'est très difficile. Je crois que c'est la responsabilité de l'homme.
Mm-hmm.
C'est l'homme qui voit ce qui ne marche pas, et c'est toujours l'homme qui crée ce qui ne marche pas. Et cet homme qui voit ce qui ne marche pas, il doit être à mesure de le corriger. Mais quand maintenant nous avons une classe avec les hommes politiques qui encouragent encore les injustices, c'est là où ça devient difficile. Mon ami Gilles, comment nous pouvons donner des réponses? Comment on peut comprendre que la fonction publique, qui est un secteur de l'État, a des problèmes avec les ouvriers? Comment nous pouvons comprendre qu'on va voter un budget? Mais déjà, au niveau du Parlement, les députés savent que les rémunérations des ouvriers, des infirmiers, des agents de la fonction publique, des enseignants, des agents de l'ordre, n'est pas comptabilisée du janvier jusqu'au mois de décembre. Comment nous allons comprendre que dans un pays avec un budget de 3 milliards ou quelque chose comme ça, il y en a qui peuvent gagner par mois 30 000 dollars,
et les autres 150 dollars.
Il y en a à qui on ne sait même pas donner 50 dollars. Donc c'est pour dire que...
Voilà.
Nous avons déjà des injustices sociales, lesquelles sont favorisées par ceux-là même qui devaient mettre de l'ordre.
Et c'est à merci beaucoup, Franck. Merci
donc,
beaucoup,
il
Franck.
Il faut plaider pour plus de justice sociale au niveau des salaires.
Merci beaucoup. Vous plaidez pour la justice sociale, pour résoudre tant soit peu cette question. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé depuis Autriche. Là, nous sommes à Vienne, en Autriche. Alors, Christian, vous êtes à Kinshasa. Bienvenue dans Parole aux auditeurs. Christian, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole. Quel est votre avis?
Merci de la parole accordée. Gilles, je crois que premièrement, il faudrait commencer par répertorier tous les agents et fonctionnaires de l'État dans l'ensemble des services publics et entreprises publiques de l'État. C'est-à-dire avoir une base de données susceptible d'identifier l'ensemble de tous les agents.
Oui, mais notre invité a souligné la question d'améliorer notre administration.
Évidemment. Par là, Gilles Lungembo, il faudrait informatiser ou numériser l'administration. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'administration publique n'est pas numérisée, n'est pas informatisée. Voilà tout par le problème, ou bien le gros du problème. Et au-delà de ça, pour combattre maintenant la corruption, après avoir obtenir les nombres exacts de tous les agents et fonctionnaires, il faut maintenant avoir une base de données répertoriant toutes les recettes et leurs entrées. C'est-à-dire que l'on sache, par exemple, à Bounia, à Bukangalonzo, l'argent et l'État a perçu autant, et cela est allé dans les trésors publics avec une traçabilité que tous nous aurions la possibilité de les constater, même si nous n'allons pas les gérer, mais nous aurons la possibilité de constater comment
l'argent sort. Oui, Christian, une question de curiosité, parce que quand je lis le commentaire d'un auditeur qui évoque ou qui aimerait savoir, disons, il dit en des termes clairs qu'il ne trouve pas la différence entre l'appel C et l'IGF. Est-ce que vous avez l'impression, après avoir écouté notre invité?
Je crois que l'agence de prévention de lutte contre la corruption, les D et l'IGF, il y a une ligne de démarcation. D'abord, les D ne sont pas des parquets. Les D ne font que ils mènent des luttes, mais ils ne sont pas des juges, des personnes, je dirais, en quelque sorte, incriminées. Voyez-vous? C'est ça la différence. Alors, pour l'agence, cette agence ne veut que, je dirais, c'est en fait une mission complémentaire avec l'IGF. Il faut une mission complémentaire.
Donc pour vous, c'est une mission complémentaire.
Oui, allô?
Vous pensez que c'est une mission complémentaire?
Oui, en fait, ils sont en train de se compléter, Et l'APL et l'IGF, ils sont en train de se compléter. Mais c'est vrai, dans la pratique, il y a un tout petit peu une confusion dans leur mission. Je crois que l'invité pourra encore
nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup, Christian.
Oui, vous dites.
Au-delà de ça, vous voulez dire?
Oui, au-delà de ça, Gilles Lungembo, après avoir identifié les recettes et le personnel, il faudrait maintenant procéder aux mutations ou à la mutation des agents. Vous savez, dans l'armée, pour éviter que le militaire puisse... C'est familiarisé.
Il ne peut pas rester en poste pendant longtemps.
On procède à des mutations après chaque 5 ans. Alors, il faudrait également instaurer ces systèmes parce qu'il y a de ces gens, de ces directeurs-là, qui sont affectés et quelque part, depuis lors, ils sont devenus des chefs coutumiers. 20 ans, 30 ans, étant que directeur,
voilà. Toujours dans une. Et ils se familiarisent avec la population.
C'est ça qui facilite également la corruption. Donc, je crois qu'un peu de toutes ces stratégies mises ensemble, et nous pourrons facilement éradiquer la corruption d'une manière, je dirais, comme nous pouvons les sentir dans peu de temps. Mais si nous continuons toujours avec la même méthode et le même discours, rien ne pourra changer, Jérôme.
Voilà, merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé de Kinshasa et d'avoir fait des propositions pour permettre à ce qu'on puisse lutter efficacement contre la corruption. De Gracias, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Déo.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous les invités de la radio Capi.
Quelle est votre réaction?
Ma réaction, en fait, je voudrais savoir pour l'inviter tous les invités de la radio Capi. La problématique entre la relation, entre la corruption et le travail, je confirme qu'il y a une relation exacte entre la corruption et le travail. Allô, Gilles.
Deo Gracias, vous avez la parole.
Ah, oui, vous avez la parole. Il existe effectivement une relation entre la corruption et le travail ici chez nous en RDC. Puisque nous avons une constitution élaborée, si vous lisez l'article 36 de la constitution, cet article dit ce qui suit, en disant que le travail, c'est un devoir. Un droit pour tout Congolais, soit pour tout Congolais. Mais dommage, il y a les Congolais qui sont engagés, mais qui vivent dans des conditions précaires. C'est comme si le travail n'est pas un droit.
Oui, il y a cette problématique des sous-payés, des non-payés, des sous-traités. Quand nous allons dans les secteurs de l'enseignement, on parle de nouvelles unités éternelles. Ils le sont, en tout cas depuis la nuit des temps.
Tout à fait. On a parlé de nouvelles unités, c'est presque dans plusieurs secteurs, plusieurs ministères, il y a quel système de nouvelles unités. Et ces nouvelles unités-là n'ont même pas de primes. Ils vivent là-bas, on les envoie avec une sorte de mission pour effectuer une mission bien déterminée. Comment ils n'ont pas même la prime? Est-ce que pensez-vous que ces gens ne seront pas corrompus?
Ils seront corrompus. Ça, c'est selon vous. Merci beaucoup, Deo Gracias, d'avoir appelé de Lubumbashi. Et vous avez évoqué l'article de la Constitution. C'est un droit constitutionnel que quelqu'un puisse vivre de la rémunération. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. On va vous accorder la parole avant de retrouver à nouveau notre invité. Marie-Paul, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ouais, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, monsieur le journaliste, il faut d'abord signifier que la célébration, le 1er mai de chaque année de la Journée mondiale du travail, insère un moment propice et opportun de repenser un peu les avancées et les défis de l'application des différentes recommandations de l'Organisation internationale du travail, ainsi que les dispositions constitutionnelles de chaque pays. Vous savez, dans chaque pays, il y a bel et bien des dispositions liées par rapport à l'employabilité, par rapport au travail. Et en ce qui concerne cette célébration pour la RDC, je note plutôt que le travail en RDC, c'est un mystère. Donc, c'est une réalité des circuits fermés. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que lorsque vous lisez la constitution de la RDC dans l'article 35, dans l'article 36, il y avait bel et bien des dispositions liées en matière de l'emploi. Et toutes ces dispositions ne sont pas au rendez-vous. Alors que le travail, comme nous le savons bien, c'est un des moyens indispensables pour garantir la paix et la concorde, et pourquoi pas aussi la justice sociale. Parce que lorsque les gens sont occupés, chacun a son travail, je pense qu'on va faire la promotion de la paix. Et voilà, de parce que ces éléments ne sont pas au rendez-vous, il y a bel et
bien
de remarquer que la méritocratie, l'excellence et ainsi de suite ne sont pas au rendez-vous lorsqu'on organise justement le recrutement pour essayer d'employer les gens. Alors que lorsque vous voyez la recommandation, notamment la recommandation 111 de l'Organisation internationale de l'Organisation internationale du travail. Il y a même la convention 111 de cette organisation. Et c'est toutes ces recommandations interdisent aux États normalement de recourir à des pratiques qui sont antidémocratiques, à des pratiques discriminatoires, notamment lorsque on fait des coteries, il y a la familiarité dans l'employabilité des gens.
Et c'est déjà sous ses profils. Merci beaucoup.
Que c'est au rendez-vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Paul. 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net.
Nous avons le plaisir d'accueillir dans ces studios, comme je l'ai dit en début de cette émission, M. Guilain Kikangala, qui est le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'APLC, et qui est sous titre de la présidence de la République. Il est en même temps conseiller spécial du chef de l'État. Alors, monsieur le coordonnateur, on a suivi les uns les autres. D'abord, quelle est votre réaction après avoir écouté les auditeurs?
Les gens sont très sensibles à la question, et c'est une bonne chose. Je crois que l'effort qui doit être porté aujourd'hui sur cette question, c'est un effort qui est collectif. Donc, penser que seul le coordonnateur ou son agence peuvent régler cette question, c'est illusoire. Il faut que tout le monde s'implique dans cette problématique, et moi je suis content d'entendre ce que je viens d'entendre.
Alors, il y a un auditeur qui a pratiquement défini les missions assignées à l'agence, et d'aucuns estiment qu'il n'y a pas vraiment de différence avec l'IGF.
Oui, parce que tout simplement, il y a une certaine paresse intellectuelle qui consiste à ne pas se renseigner avant de parler. Alors, comme cette question, je m'attendais à la voir, je vous ai amené de la documentation. L'APLC est créée par une ordonnance du 17 mars de l'année passée. Alors, je vais vous lire certaines des fonctions. Prévention, lutte contre la corruption, fait assimiler, recouvrement des avoirs, protection des témoins et experts, participer à la coordination administrative de la prévention. Alors, je vais vous lire ceci maintenant. Coordonner tous les services et organismes publics en charge, vous avez entendu, tous les services publics en charge de la lutte contre la corruption et, à ce titre, elle est l'autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption. Vous avez entendu. Notre mode de saisine, c'est-à-dire comment prenons-nous possession des dossiers. Soit par plainte, soit par dénonciation, soit par réclamation, soit par saisine d'office. Qu'est-ce que la saisine d'office? Je sors de votre studio, je constate un fait délictueux qui rentre dans ma compétence, je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, j'ouvre une enquête. Ça, c'est l'ordonnance du 17 mars 2020 qui parle de l'APLC.
IGF.
Est-ce là, c'est pas le travail du magistrat, du procureur?
On reviendra à cela. IGF, ordonnance numéro 87 du 15 septembre 87, portant fonctionnement, organisation, etc., de l'inspection générale des finances, en abrégé IGF. Vous avez entendu, quelles sont mes prérogatives? Contrôle des finances et des biens publics. Toute enquête ou mission d'audit, inspection, vérification, contre-vérification, surveillance de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses. Du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales, décentralisées, etc. Donc, contrôle a priori ou a posteriori des finances publiques. La saisine. Ah oui, service d'audit et de contrôle supérieur du pouvoir exécutif. Et nous avons aussi un autre point commun avec l'IGF. Enfin, nous avons aussi un point commun avec l'IGF, nous dépendons de la présidence. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était d'abord du ministère des Finances. La saisine, comment l'IGF, et là c'est pas M. Kikangala qui le dit, c'est la loi. Elle est saisie soit sur instruction du président de la République, soit sous réquisition des autorités politiques et administratives, soit sous réquisition des autorités judiciaires ou sur dénonciation de tiers. Moi je vous ai dit que j'ai l'autosaisine. C'est déjà une différence. Je vous ai dit que je suis l'autorité, je prends autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption. Donc au niveau international, et je vous ai dit aussi que je coordonne tous les organismes publics qui ont cette matière.
Êtes-vous l'auxiliaire de la justice?
Bien sûr.
Donc vous dépendez du procureur?
Je ne dépends pas du procureur, je travaille avec le procureur. La nuance, elle est là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un dossier qui est terminé, clôturé, ou qui nécessite qu'on aille plus loin, je m'adresse au ministère public, je m'adresse au procureur général, je m'adresse au procureur de la République et je lui dis voilà, regardez.
Dans la table claire, vous jouez le rôle d'un magistrat?
Ah non, d'un enquêteur.
D'un enquêteur?
D'un enquêteur, oui, bien sûr.
Mais vous pouvez le faire de manière autonome?
Je le fais de manière autonome, en respectant la loi.
Sans une mission du procureur, vous êtes saisi d'une infraction quelque part, de cas de fraude, de cas de la corruption, et que fera alors l'IGF?
Je vous l'ai dit.
Juste pour les finances publiques.
Oui. Et jamais en autosaisie.
Alors, mais comment? Il y a une confusion actuellement. On voit l'IGF dans certains services publics. Et rarement la PLC.
La RVA, c'est pas un service public? On m'a vu dans les actualités il y a quelques semaines à l'aéroport.
Tirer à la volée des services que vous avez pris comme ça, que vous comptez de bout de doigt?
Non, mais coordonner ne veut pas dire être le seul.
Est-ce que vous avez un plan de travail?
Mais il est devant vos yeux ici. C'est notre Bible. C'est notre Bible. Et on l'a fait en 3 mois d'existence. Vous savez, constater qu'il y a de la corruption, ça ne suffit pas.
Et première action de votre plan?
La première action, je vous dirais que la première chose qu'il faut faire, que nous avons faite quand nous sommes arrivés.
Déjà oui.
C'est d'abord de prendre connaissance des dossiers qu'on nous avait laissés par le système précédent. Vous savez que dans le temps, il y avait un conseiller spécial en charge de la gouvernance, etc. Il fallait voir si on trouverait pas trace des fameux 15 milliards dont on nous parle.
Tout à fait.
Je cherche toujours.
Je voulais d'ailleurs en venir.
Je les cherche toujours.
Il y en a pas.
Je dis simplement que je les cherche toujours. Donc voilà.
Mais les dossiers ont été remis par près du procureur. Parce que vous travaillez avec le procureur.
Oui, mais bon.
Le bureau du procureur a été saisi.
Des 15 milliards?
Des 15 milliards. Il y avait toute une liste, et des gouverneurs, et des ministres, et des hautes personnalités. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est un secret des polichinelles.
Oui, c'est un secret, mais que bon, moi, ce dossier-là, je ne l'ai pas. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre.
Donc, c'est vide.
Ah, j'ai pas dit que c'était vide. Je dis que ce
dossier... Parce qu'en 9 mois, vous n'avez pas trouvé ces dossiers. Il y a remise et reprise.
Il y a une remise reprise, mais je n'ai pas vu un dossier, il était intitulé 15 milliards.
Donc voilà. Mais vous avez vu quand même un dossier où il y a une liste des personnalités en cravate, qu'on a dénommé des couloirs en cravate.
Oui, cette expression n'est pas de moi, vous avez remarqué. Hein?
Oui, c'est de Luzolo Bambi, pour ne pas les citer.
Ah bon, ben ça...
Mais
ça,
parce que vous l'avez remplacé.
Oui.
Par principe de remise et reprise, la continuité de la chose publique, je crois qu'il y a des noms que vous n'aimerez pas. D'ailleurs, par respect, dans les médias, on ne peut pas les dire, mais vous avez quand même trouvé des listes et des gens corrompus et des corrupteurs.
Écoutez, je reçois des gens chaque semaine. Chaque semaine, il y a des personnalités qui viennent. Alors, il y a deux façons de faire ce métier. Il y a la façon qui est beaucoup plus spectaculaire et qui est de dire, voilà, je reçois Monsieur JR chez moi parce que je le soupçonne. Mais alors là, j'ai l'impression quand même que je ne reconnais pas son droit, sa présomption d'innocence. Je ne respecte pas le secret de l'instruction. ou bien j'essaye de creuser davantage, et quand j'ai des éléments, puisque nous c'est la culture du résultat, je fais une annonce. Donc voilà, des noms, oui, quand je vois les noms, je bouge. La seule chose, et j'essaye d'être très clair par rapport à cela, ce n'est pas parce que nous ne venons pas tous les jours pour annoncer que nous suspectons tel ou tel, que nous ne faisons rien. Mais nous avons cette double exigence. Respect de la présomption d'innocence, respect du secret de l'instruction. Et d'ailleurs, quand vous faites des annonces qui sont prématurées, c'est une façon aussi d'avertir les gens qu'on les suspecte. Mmh. Donc, en 8 mois, il y a certaines choses qui ont été faites, et parfois, il y a dans l'actualité, vous apprenez des choses. Ah tiens, telle personnalité ou telle personnalité a eu des soucis au parquet général. Peu de gens savent que c'est un dossier de la PLC.
Et quelle note donnez-vous si on faisait un bilan à mi-parcours ?
À qui ?
À vous.
À moi, non.
À l'agence.
L'agence.
Les bilans est-il mitigé ? Positif ? Négatif ?
Je crois qu'il est positif.
Peut-être qu'il y a quand même des avancées dans la lutte.
Il y a des avancées, il y a des avancées. Parce que d'abord, la première chose qu'on devait faire, et ce travail n'est pas encore terminé, c'était de faire en sorte que notre légitimité soit acceptée. Et ce qui est bien, en ce qui concerne la magistrature, nous travaillons très bien avec elle. Nous avons des échanges qui sont réguliers, et je crois que la majorité des magistrats, en tout cas des hauts magistrats, ont compris qu'on n'est pas là pour se substituer à eux. Nous sommes une aide. Hein, quand nos chers auditeurs ont parlé d'une lutte, notamment, puisqu'on c'est quand même le 1er mai, il faut revenir déjà au sujet essentiel, qu'il faut que les gens soient bien payés, etc. C'est pas la PLC qui fait ça. Donc c'est bien la preuve que c'est un débat, c'est une question qui est la priorité du gouvernement, de la société civile et de nous en tant qu'individus aussi. C'est vrai que si les
gens... Si j'ai compris les auditeurs, c'est qu'ils vous présentent un tableau un peu sombre et que dans une forêt, et vous aurez difficile à atteindre vos objectifs. C'est ce que j'ai ouï comprendre.
Mais s'ils
parce que quand il y a 80% des chômeurs et 20% qui travaillent, et même alors ceux qui travaillent, non payés, sous-payés, sous-traités, et finalement, bon, il y a de l'injustice sociale qui sera une épine sur les pieds.
Mais là, on est d'accord, vous et moi, que ça ne dépend pas de la PLC. Il faut qu'il y ait...
Est-ce que finalement, vous n'allez pas faire un travail à vide? Parce que l'objectif...
Travail, la lutte pour cette question, c'est un travail qui est énorme et gigantesque. On est d'accord
là-dessus. Transversal.
Transversal, vertical, tout ce que vous voulez. Et donc, de longue haleine. Mais alors, est-ce que le fait que c'est difficile, il faut rien tenter? C'est ça la question. C'est pour ça qu'on dit, on est conscient du fait qu'il y a énormément de travail, on est déterminé, mais on est aussi modeste par rapport au fait que nous seuls, nous ne pouvons pas y arriver.
Voilà, on va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints pour partager ces moments interactifs sur Radio Okapi. Il y a Amos et les autres qui sont déjà en ligne. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Amos, vous nous avez rejoint, vous êtes avec nous. Bonjour. Amos, vous êtes avec nous. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Amos. Je crois que la ligne va s'améliorer. Il est temps pour nous de poursuivre avec notre invité. C'est vrai, nous l'avons dit, le plan stratégique va de 2020 en 2030.
Oui.
2020-2030.
Il y avait deux raisons. La première, je crois que je viens de l'exposer, la tâche est énorme. Et ils seront conscients du fait que ça ne pourra pas être réglé en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est un. Deux, nous avions souhaité nous donner une perspective et que cette perspective dépasse même les contraintes électorales. Parce que je suis conscient du fait que certains se sont inquiétés du fait que c'est une agence de la présidence et donc on pourrait très bien croire que ce soit un instrument, si pas de répression, mais de... Vous comprenez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
Donc, en se mettant sur 10 ans, on est au-delà de ce genre d'échéance, on est au-delà du mandat des personnes, y compris de celui qui vous parle là maintenant.
Tout à fait.
Mais on trace un cap. C'était ça la volonté.
Alors quand je vois les réactions des auditeurs, ils m'ont demandé de vous poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Appel C et l'Access Bank?
Il s'est passé des choses... La question est très mal posée, je vais vous dire pourquoi. Mmh. On présente ce problème comme un problème, comme si c'était un problème personnel entre l'Appel C, voire même son coordonnateur, et une banque. Mais là, j'ai fait une interview à ce propos-là il y a quelques temps. La seule d'ailleurs. Moi, mon boulot, c'est de traquer la délinquance économique. Si je tombe sur un dossier, et vous remarquerez d'ailleurs ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je ne communique pas sur le nom des personnes. Mmh. Je ne communique pas sur les parties. Donc, quand c'est sorti, c'est à l'initiative des gens de cette banque, via leurs avocats, pour essayer de déstabiliser la PLC.
Donc la banque a piégé l'Appel C. Avait piégé l'Appel C.
C'est vous qui le dites. Moi je dis simplement que c'est pas moi qui ai divulgué le fait que j'enquêtais sur eux. Eux sont suspectés de blanchiment à concurrence de 8 millions de dollars. Voilà. Qu'ils s'en défendent. Eux pour se défendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, le vrai problème c'est pas nous qui blanchissons de l'argent, c'est des agents qui sont venus nuitamment chez moi pour me réclamer une caution. Il faut quand même faire le pari de l'intelligence des téléspectateurs, des auditeurs. Les auditeurs savent très bien quelle est l'expression écran de fumée. 8 millions d'un côté, 30 000 dollars de l'autre. Vous ne voyez pas une petite différence?
Il n'y a pas match.
Il n'y a pas match. S'il y a eu, je vous ai dit qu'on travaille avec la justice, si jamais il y a eu une irrégularité dans la perception de cette somme, qui entre parenthèses s'est retrouvée dans les mains du parquet, à la demande de la PLC. On la traite. Mais de grâce, expliquez-vous sur les 8 millions. Expliquez-vous sur les 8 millions que vous blanchissez de quelqu'un qui est sous sanction, qui ne peut pas poser déjà avec le dollar. Regardez, il y a un mois, ou deux, je ne sais plus, une autre banque de la place, deux lanceurs d'alerte disent que ces gens-là, il y a encore toujours les mêmes personnages, ces gens, ou un autre personnage aussi sulfureux, c'est cette banque-là, dont je ne cite pas le nom, puisque vous savez très bien que moi je ne cite pas le nom des parties. J'ai été témoin en tant qu'auditeur dans cette banque-là, dit le lanceur d'alerte, de transactions illicites. Mmh. Résultat. On se fâche, l'avocat fait des conférences de presse pour traiter ces gens-là d'escrocs, et on sort un jugement de condamnation à mort des lanceurs d'alerte. Mais c'est exactement le même... Dans un cas, on essaie de tuer médiatiquement le coordonnateur de l'agence, et dans l'autre, on essaie de tuer physiquement, puisqu'on condamne.
Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ces dossiers?
Dans quel dossier?
Des Access Bank.
Je suis devant vous. Vous trouvez quelqu'un qui transpire, qui est mal à l'aise? Moi, je regarde les gens dans les yeux. Je regarde les gens dans les yeux, et je dis, voilà, expliquez-vous sur ces 8 millions.
Et aujourd'hui, quelle est la suite?
Demandez au parquet général. Où je suis allé librement et sorti librement. Répondre aux questions.
Le travail, disons, il y a un lien avec la corruption. Chers auditeurs, vous êtes nombreux. On va écouter Amos qui nous a rejoint quand même. La ligne s'est établie. Amos, vous êtes avec nous? Amos, vous êtes avec nous? Allô, Amos?
Allô, cher.
Vous êtes à Bukavu. Quelle est votre contribution dans cette émission?
Merci pour la parole. Je tiens d'abord à saluer tous les auditeurs de la radio Okapi. Je salue l'invité au studio. Allô, chien. Allô. Allô, chien.
Oui, Amos, on vous suit. On vous écoute.
Merci bien. En fait, par rapport à la célébration du premier comme journée mondiale du travail, moi je pense que je ne vois pas encore jusque-là l'opportunité de continuer à célébrer cette journée en RDC, compte tenu de la situation que nous vivons pour ce qui est du travail. Notre constitution est claire, à l'article 36. Je prends seulement le deuxième paragraphe. Nul ne peut être lésé dans son travail à raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Je ne prends que ça. À part le fait de penser que, comme je le disais tantôt, je te dis que je ne vois pas l'importance du travail, parce que non seulement le chômage est évalué à plus de 95%, mais aussi ceux qui travaillent, ils touchent quel salaire. Et puis, j'ai évoqué le deuxième paragraphe de l'article 36, c'est de constater qu'aujourd'hui, ici, pour avoir du travail, vous êtes nommé président, vous êtes élu président de la République, vous êtes ministre, tout le monde dans votre cabinet est de votre tribu ou quelqu'un de votre parti politique. Au détriment.
Oui, Franck l'avait dit au début de l'émission. L'injustice sociale, c'est ce qui serait à la base d'ailleurs de la flambée, de taux d'ailleurs de la corruption. Vous voulez partager, j'ai l'impression, dans vos propos. Mais la grande question aujourd'hui, c'est vrai que c'est des personnalités que Luzolo Bambi avait qualifiées autrefois de couloune en cravate. Est-ce que pensez-vous que le travail de l'APLC sera un travail facile?
Quel travail vous dites, je n'ai pas compris votre question.
Oui, le travail que fait aujourd'hui l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'APLC.
Ce travail est à encourager, mais est-ce que ce travail va aboutir? Parce que les mêmes gens qui se comportent de la manière dont je venais de dire, ce sont eux qui sont en train de faire le travail que vous dites. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle zone salariale. Les chefs de division de Kinshasa ne peut pas avoir le même salaire qu'un chef de division de Bukavu et où ceux qui sont dans le territoire et même les avantages liés à son travail. Tout ça, c'est un problème sérieux. Et il fallait qu'on ait des dirigeants capables de comprendre que non, le travail, c'est un droit pour tout Congolais. Il faut voir les ONG aujourd'hui au Congo. Les ONG, ce sont elles qui imposent maintenant la loi au Congo. Vous allez voir une ONG qui va dire, pour que vous soyez engagé, vous devez maîtriser l'anglais. Au moment où nous sommes dans un pays francophone, et nos dirigeants observent passivement les airs de bêtises, sans qu'ils ne disent absolument rien. On se demande, est-ce que nous sommes dans un pays gouverné, nous sommes dans une jungle, nous sommes dans la rue, où chacun vient, il impose sa loi au détriment des citoyens. C'est déjà très grave. Moi, je pense que si du moins les Congolais étaient sérieux, ils devaient carrément refuser la célébration de cette journée et demander aux dirigeants de respecter
de changer les paragraphes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est dit n'importe quoi parce qu'on a connu depuis 2006, tout gouvernement que nous connaissons promet l'amélioration des conditions de vie des Congolais.
Et le fait qu'on n'améliore pas les conditions, il y a la corruption qui augmente.
C'est pourquoi je dis, tant qu'on n'aura pas de dirigeants la stratégie ou la politique de création de l'emploi, on ne se fera pas de crier de chômage de jeunes.
Et la corruption ne sera pas éradiquée. Merci beaucoup, Amos. Alors, on va prendre Sébastien qui est à Congolo. Sébastien, vous nous avez rejoint. Merci d'être venu. Sébastien, vous êtes avec nous. Vous avez Sébastien, la parole. Quelle est votre contribution?
Merci, Radio Capi. À mon avis, la fête du 1er mai concerne avant tout le chef de l'État, son premier ministre et ses ministres, les députés nationaux et provinciaux, sans oublier les gouverneurs et différents généraux de l'armée et de la police, dont la vie est rose. Cette fête est vide de sens du côté des agents et fonctionnaires de l'État, à savoir les enseignants, les militaires, les policiers, et les agents de l'administration publique, le personnel de la santé, vu la modicité des salaires qu'ils touchent à l'issue de chaque mois. Le véritable sens à donner à cette fête serait de voir le gouvernement Sam Aloukondé améliorer le panier de la ménagère, donner un salaire décent à cette deuxième catégorie des Congolais que je viens de citer, en luttant acharnement contre la corruption, le détournement des deniers publics, pour que tout le monde sourie du début à la fin de l'année. Que l'État congolais se verse dans l'amélioration du social, parce que la RDC est un pays riche en ressources du sol et du sous-sol. Que les 80 millions de Congolais soient fiers de vivre chez eux, après tout. À quoi sert de voir un président de la République, milliardaire, diriger un peuple le plus pauvre de la planète?
Merci beaucoup, Alidor. Alors, le temps nous est parti fait défaut. On revient à vous, monsieur le coordonnateur, parce que quand on écoute l'ensemble des internautes, l'ensemble de compatriotes à travers le pays, finalement, ça, ce n'est qu'un échantillon. Mais on se rend compte que la question de la justice sociale revient et les gens plaident pour la justice sociale pour vous permettre de mener à bon port vos missions
et aussi vraiment réussir dans ces secteurs-là.
Oui, je souscris tout à fait à ce souci de, des auditeurs, qu'il y ait davantage de justice sociale. Ça aidera davantage à éviter ce genre de comportement déviant. Moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça.
Alors, au regard de du travail que vous menez, mm-hmm. est-ce qu'on peut se faire une idée très claire aujourd'hui ? Vous-même, en tant que spécialiste, expert en lutte contre la corruption, que l'avenir de la RDC sera radieux ?
Bien sûr. Il y a la chose qui m'a le plus étonné par rapport à... Depuis que je suis entré en fonction, voici 9 mois, c'est l'intérêt des gens par rapport à cette question. Je me rends compte tout à l'heure que j'avais oublié...
Vous n'avez pas rencontré des ombrages, les gens qui vous mettent les bâtons dans les roues ?
Si, il y en a.
Parce que je sais que ce n'est pas une mince affaire.
Bien sûr. Qui peut être satisfait d'avoir quelqu'un qui est derrière vous à vous contrôler par rapport à ce problème qui est même éthique ? Bien sûr qu'il y en a. Mais ça n'a pas empêché de travailler. Si vous me le permettez, je vais quand même vous faire... Puisque vous m'avez posé une question intéressante par rapport au bilan. Mmh. Et j'ai oublié de vous présenter, je dirais, le résultat chiffré de 2020. Mmh. En 2020, nous avons eu 36 dossiers de détournement, dont 26 dossiers de détournement de deniers publics. Et 7 dossiers dits de coulage de recettes. Nous avons eu un dossier de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Nous avons eu 10 dossiers de soupçons de corruption dans le chef de magistrats et de greffiers. Si vous voulez, je reviendrai sur ce point après. Nous avons eu un dossier de soupçons de corruption de députés nationaux. Nous avons eu un dossier de soupçons de corruption, en fait nous avons eu deux plutôt, de corruption dans le chef de mandataire public et un dossier de fraude fiscale. Le troisième point, je crois, c'était par rapport à la corruption dite des magistrats. Mmh. Je travaille avec la magistrature et je sais que beaucoup d'entre eux travaillent dans des conditions qui sont très difficiles, notamment en termes salariales. Et je trouve que ça, c'est une action qui devrait être faite de manière sérieuse.
Il n'a d'ailleurs pas toujours le 1600 qui leur a été promis.
Oui, et c'est scandaleux, il faut absolument qu'on règle cette question. Cela étant, il y a des pratiques qu'il faut dénoncer et qu'on me dénonce régulièrement. Le problème, c'est pas parce qu'on me dénonce un comportement dans un dossier particulier qu'on me donne la preuve qu'il y a eu corruption du magistrat.
Vous avez parlé de soupçons.
C'est de soupçons.
C'est de soupçons.
C'est des simples soupçons. Par contre, il y a un seul dossier qui est en province, je peux même vous dire la ville, c'est Bukavu, où là, nous avons vraiment presque un début de preuve puisque le magistrat a signé un reçu. Ce qui est étonnant. Et la somme d'ailleurs en question, c'était $10,000. Et le procès est en cours là pour le moment. Les gens doivent comprendre aussi que même quand ils sont convaincus d'une chose, si moi je n'ai pas de preuve ou d'éléments ou de début, c'est très difficile. Moi, je ne peux pas accuser les gens simplement sur base du fait que par exemple tel magistrat a mal jugé parce qu'il a le droit aussi de se tromper, c'est un être humain.
Mais est-ce que ne sentez-vous pas qu'il y a du risque dans vos propos? Mm-hmm. Ça risque même de décourager les gens pour tout de suite penser qu'effectivement la lutte contre la corruption ne donnerait pas des résultats parce que les coordonnateurs lui-même n'a pas vu les 15 milliards dont Luzolo Bambé a parlé, il table sur des soupçons. Finalement, la lutte contre la corruption dont on parle, qui est très élevée, c'est le quai du bluff. Mais alors, pourquoi le peuple ne vit pas des richesses du pays ?
Je ne peux pas me mettre dans la tête des gens, malheureusement. Le combat, il faut le mener. Et tous les moyens qui concourent à ce que ce combat soit gagné sont bons. Il y a la PLC, il y a...
l'IGF et les autres, la Cour des comptes.
Il y a 20 institutions en République démocratique du Congo qui peu ou prou sont intéressés à la question. 20. Et donc, moi je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est la volonté d'éradiquer le mal. Après, si jamais on ne le tente pas, c'est clair qu'on va échouer, puisqu'on n'aura rien tenté. Moi je travaille avec des gens qui au quotidien croient en leur mission, ils travaillent dans des très mauvaises conditions, puisqu'on n'est pas encore installé. Il y a des agents qui ne sont
jusque
pas
jusque 9 mois, vous n'êtes pas encore installé.
Non, mais ça, c'est pas ma faute.
Mais voilà. Ça nous scandalise.
Ah, ben, je vous comprends.
Un service de haute facture, et qui doit faire un travail sérieux, de traquer les voleurs, si vous le permettez. Mm-hmm. Mais bon, pas installé, je vois que vous travaillez dans des conditions qui ne sont pas appréciables.
Oui, mais nous n'avons
pas... Parce que vos agents sont considérés des inspecteurs. Ils doivent travailler et mettre, ils doivent être mis dans des conditions, les plus meilleures aussi, pas même, au moins, plus ou moins meilleures, pour éviter aussi de tomber dans la corruption, comme les cas qu'on a cités dans l'Access Bank.
Oui, mais dans le cas présent, l'affaire, c'est Access. Ce n'est pas APLC. On peut me le raconter comme on veut. Il y a des gens qui sont soupçonnés, je répète, 8 millions de dollars, imaginez-vous combien de gens on peut payer avec ça. Imaginez-vous combien de gens peut-on payer, combien de gens peut-on soigner avec cela.
Alors juste une question directe, dans les jours à venir, quel est votre plan d'action? Les deuxièmes actions à amener?
En tout cas, nous avons au niveau de la prévention, nous avons un média que nous voulons lancer, j'en laisserai la primeur dans les prochains communiqués. Nous avons au niveau de l'action, il y a notre installation qui normalement est en cours et nous travaillerons avec des moyens, je dirais, de type moderne. C'est-à-dire que grâce à la coopération de certains partenaires, nous aurons des moyens efficients pour mieux travailler. Et donc ça, c'est vraiment mon grand souci, que cette installation se fasse bien, qu'on donne l'impulsion, et puis alors après, quand les moyens seront réunis, nous espérons pouvoir ouvrir un ou deux bureaux en province.
Vous souhaiterez qu'on revienne à vous pour établir un bilan? Quand?
Quand vous voulez.
Monsieur Guilain Kikangala, coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'APLC, et conseiller spécial du chef de l'État, merci d'avoir honoré les auditeurs de votre présence dans ce studio et d'avoir accepté d'apporter quelques éclairages et de manière sincère.
Merci de m'avoir invité.
Je vous en prie. C'est par ici que nous mettons un terme à ce programme. Parole aux auditeurs s'arrête par ici. Jocelyne Mukendi était à la réalisation de cette émission mise en onde par Polydor Basunga et J.R. Lungembo Luabung. Anja, il est plaisir de coordonner et présenter. On se retrouve dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.